1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Canal B, vous pouvez continuer à le faire si vous n'avez pas peur de coq à l'âne permanent, c'est ce qui va être le cas aujourd'hui puisqu'on terminera tout à l'heure avec de la musique de tradition hindoustanie de l'Inde du Nord, oui, mais avant ça on aura pu parler avec la musicienne Laura Perrudin de harpe celtique mais aussi de harpe chromatique électrique augmentée. On évoquera avec elle son album Tempus, sorti le 23 janvier dernier. Et puis aussi ce workshop dans le cadre du festival Autre Mesure 2026. C'est mercredi soir à l'Edulab Pasteur, où vous pourrez découvrir justement ce prototype de harpe chromatique électrique augmentée, conçu en collaboration avec un luthier et un ingénieur de l'IRCAM. Avant ça encore, on réécoutera une musicienne que vous avez peut-être pas mal entendue sur Canal B. C'était un des disques découverts pour les radios de la Ferraroc la semaine dernière. Tessa Rose Jackson. Et puis on va commencer avec le pétaradant premier album du Quatuor à trois quarts anglais et à un quart français. Vous les avez peut-être reconnus déjà. Mandy Indiana, menée par une tempétueuse chanteuse Valentine Caulfield. Elle est associée à un guitariste et producteur Scott Fair, un claviériste, un batteur, et ensemble c'est vraiment explosif, on va dire, à ce que propose Mandy Indiana. Rencontre assez étonnante entre post-punk, noise, électro. Il se transforme pratiquement de single en single. Ils ont sorti beaucoup de singles et quelques EP. Et puis là, c'est leur premier album qui arrive ce 6 février. Le groupe vient de Manchester. Elle est française, la chanteuse. Ils sont un peu basés à Berlin. Ils sont de partout. Ils ont fait des premières parties pour Idols, Gila Band et Squid. Et ça va être probablement l'un des albums de l'année que ce pour Mandy Indiana, un album qui sort donc, je vous le rappelle, ce vendredi et qui sera disponible pour le label Sacred Bones Records. Bonne émission. l'instant le titre Cursive, un des morceaux chantés en français. Ils ne le sont pas tous hein, sur cet album, je le répète, vraiment explosif hein, entre post-punk, expérimentation, noise. Le groupe Mandy Indiana, l'album c'est Urg et sort sur le label Sacred Bones Records ce vendredi. On va poursuivre en calmant totalement le rythme et puis l'ambiance sur l'album The Lighthouse par l'anglo-néerlandaise Tessa Rose Jackson. Vous l'avez peut-être entendu si vous écoutiez l'émission Dig Dig Diggers vendredi dernier à 18h, l'émission hebdomadaire des radios de la Ferra Rock. Elle était une des deux sorties qui intéressait au premier plan la Ferra Rock, une des deux découvertes Ferra Rock avec son album très intimiste qui nous présente la mort non pas comme quelque chose qu'il faudrait craindre mais comme quelque chose qui devrait nous aider à mieux profiter de la vie. C'est étonnant, je vous conseille de l'écouter l'émission si vous ne l'avez pas entendu. On écoute ce titre When Your Time Comes par Tessa Rose Jackson et puis juste après on retrouve Laura Pérudin.
Preacher man and city kid, how do
dans le grand tout. Je suis heureux de retrouver la musicienne harpiste Laura Pérudin. Bonjour Laura.
Bonjour.
Pas seulement harpiste, hein, guitariste aussi. On en aura la preuve dans quelques instants, même si c'est pas toujours évident quand on a juste l'oreille et qu'on n'a pas une oreille spécialisée dans les différentes façons de jouer de la harpe, et bien d'identifier parfois de la harpe, parfois de la guitare celtique ou pas. On a un album Tempos qui vient tout juste de sortir, à peu près une dizaine de jours à peu près. Un sixième disque, pas sixième album, mais sixième disque pour Laura Pérudin. Vous aviez peut-être déjà découvert la musicienne en 2015 avec Impressions. Et bien là, on a sur Tempos, c'est du latin. On pourrait même ajouter Fugit, Memento Mori, il me semble que ça va avec aussi la fin de l'expression. On verra ce qu'elle veut dire pour les non-latinistes dont je suis. Un album qui mélange folk, jazz et puis toujours des envies d'expérimenter de nouvelles formes, notamment avec une nouvelle harpe qui va bientôt voir le jour peut-être. Alors on l'entend pas sur Tempo, cette harpe chromatique électrique augmentée,
ouais.
Mais vous la découvrirez peut-être dans ce workshop qui est montré mercredi à l'Edulab Pasteur grâce au festival Autre Mesure. On écoute un morceau et puis on parle avec Laura. Merci hein, de nous rejoindre aujourd'hui après une route entre Douarnenez et Rennes. Il y avait un concert dans la release party de l'album, c'est ça?
Pas tout à fait, mais bon, il y a vaguement un lien. Mais effectivement, la route de retour était un peu complexe.
Bon, on ne parlera pas des conditions de circulation, mais on va parler musique et en écouter un petit peu avec notamment ce titre « Je n'oublie personne ». Vous l'entendez sur l'album Tempo, sorti le 23 janvier. Personne, vous l'entendiez à l'instant, ce titre extrait de l'album Tempus par Laura Pérudin, notre invitée dans Le Grand Tout. On entendait quelques sonorités un peu étonnantes. Alors, il n'y a pas que la harpe sur le morceau qu'on entendait ou même il n'y en a pas du tout, Laura?
Il n'y en a pas du tout, en fait. Ce morceau, il est joué entièrement sur une guitare préparée. Donc, effectivement, ça fait sonner la guitare de manière très, très inhabituelle, mais c'est une guitare.
Et ça l'a fait sonner même un petit peu comme ce qu'on appelle un likembe ou piano à pouce.
Kalimba, sansa.
Kalimba, ça a beaucoup de noms comme ça. Et ça, c'était vraiment l'effet recherché ou comme ça peut être le cas dans la musique que tu produit, eh bien, il y a un petit peu de surprise, il y a un petit peu d'accident, et ça, on garde ça à la fin parce que ça change un petit peu la donne.
Bah, c'est toujours un peu des deux. Dans l'album, il y a des morceaux où j'ai expérimenté avec, enfin, en gros, tous les objets que je pouvais avoir sous la main, voir comment ça peut être utilisé pour détourner un instrument de sa fonction habituelle. Et puis, quand j'aime bien le résultat, je le garde et j'en fais quelque chose. Ou parfois, je cherche justement à faire sonner l'instrument plus comme ci, comme ça. Et là, je vais chercher le bon objet pour aller chercher le son que j'ai en tête. Là, je pense que, en fait, c'est un crayon dans la guitare pour faire une espèce de chevalet secondaire. C'est une technique que j'ai observée beaucoup chez un guitariste qui s'appelle Thibaut Florent, avec qui j'ai joué très longtemps, avec qui je joue de temps en temps, qui est un guitariste de Tours, qui fait beaucoup ce type de préparation dans sa guitare. Donc, c'est un peu lui qui m'a appris à faire ça.
La harpe, tu en joues de plusieurs sortes, en fait. Tu n'as pas qu'une harpe dans ta collection ou qu'une seule guitare.
Bah, moi, je ne suis pas une vraie guitariste, dans le sens où je n'ai jamais appris à jouer de la guitare au sens commun du terme. Donc, moi, j'ai plutôt... j'ai appris la harpe, par contre, de manière plus académique. Donc, j'ai commencé sur la harpe celtique, c'est mon premier instrument. Après, j'ai aussi appris la harpe classique, la harpe à pédale qu'on voit dans les orchestres, etc. Mais qui n'a jamais été mon instrument. Enfin, c'était plutôt une étape d'étude, mais je ne me suis jamais projetée dans cet instrument. Et après, moi, vu d'où je viens musicalement, d'avoir écouté très tôt beaucoup de jazz, beaucoup de musique électronique, beaucoup de soul, musique. Donc, en fait, j'avais envie de jouer ces musiques-là qui ne m'étaient pas accessibles avec la harpe celtique, parce que la harpe celtique, elle est diatonique, c'est comme si on n'avait que les notes blanches d'un clavier de piano, et pour pouvoir accéder aux notes noires, aux altérations, dièse, bémol, il faut utiliser des mécaniques manuelles. Donc ça restreint un peu le langage musical harmonique qu'on peut utiliser sur la harpe. Et donc moi, j'ai compensé ça un peu en jouant du piano, de manière autodidacte, le piano qui me donnait accès à toutes ces couleurs-là. Et ensuite, j'ai cherché à pouvoir reproduire ce langage sur la harpe, et donc j'ai travaillé avec un luthier qui s'appelle Philippe Volant, qui fait des harpes chromatiques dans un système assez particulier, donc qui donne accès à toutes les notes d'un clavier de piano. C'est un système, ce système-là, on est très peu nombreux, on est une dizaine de harpistes à jouer de ça dans le monde, donc c'est vraiment très très niche, on va dire. Et après, je suis revenue vers lui pour qu'il m'en fasse une deuxième version, toujours chromatique, mais électrique, donc qui m'a permis d'utiliser des machines sur scène, des traitements sonores, des effets, etc.
Alors électrique, ça veut dire qu'il y a un micro sur chaque corde ?
Exactement, elle a un micro par corde, elle n'a pas de caisse de résonance, donc acoustiquement, elle n'a presque pas de son. Et donc voilà, donc j'ai eu plusieurs étapes de mutation dans la harpe, donc à chaque fois il a fallu réapprendre un peu sur ce nouvel instrument. Là on est dans une troisième étape de mutation qui est en cours de prototypage pour en faire une version donc toujours chromatique électrique mais aussi augmentée, donc qui permettra d'interagir avec un ordinateur, avec un dispositif numérique de quelle que soit la sorte, un peu comme une manette de jeu vidéo qui pourra actionner en fait que ce soit du son, de la lumière, de la vidéo, etc. Donc ça, on travaille avec un ingénieur de l'IRCAM pour concevoir ce nouveau système. Et puis en attendant, Tempus, en fait, c'était un peu mon retour à mon premier instrument, donc la harpe celtique, et que j'avais un petit peu laissé de côté pendant une quinzaine d'années. Et là, j'y suis revenue, mais du coup, avec des années d'expérimentation de plein de choses dans la tête et dans les pattes. Et donc avec une manière de concevoir l'écriture pour cet instrument un peu différente, un peu inhabituelle, et justement très influencée par la musique électronique. Donc il y a beaucoup d'idées dans Tempus qui viennent directement de formes, de structures musicales très inspirées par la musique électronique, donc des choses répétitives, des concepts de beatmaking et de concepts de ce qu'on pourrait jouer sur une batterie, mais appliqués à une harpe, et puis aussi des recherches de matière sonore avec les préparations, les objets utilisés dans les cordes pour détourner le son, qui viennent aussi de mon travail de la musique électronique, et aussi des couleurs harmoniques qui viennent beaucoup de mon histoire avec le jazz, avec le piano, avec l'harpe chromatique, qui m'ont amené en fait à aller chercher des couleurs très inhabituelles sur l'harpe celtique, des manières de l'accorder qui sont pas habituelles. Et puis après, la guitare, c'est un instrument que j'ai toujours un peu joué dans ma chambre depuis petite, mais que j'ai jamais vraiment appris. Donc en fait, ma manière de jouer de la guitare, c'est juste faire des trucs que je ferais sur une harpe, mais sur une guitare. Donc ça donne une manière très inhabituelle aussi de jouer de la guitare. Donc je fais ma petite cuisine de l'un à l'autre. ça donne ses chansons.
Ça donne de belles chansons. On en parlera un peu plus précisément peut-être en discussion, en fin de discussion tout à l'heure avec Laura, hein, de ce nouvel instrument qui va voir le jour, on l'espère, cette harpe chromatique électrique augmentée. Donc, on te retrouvera donc mercredi à l'Edulab, mais on va avant ça peut-être se pencher sur cet album Tempus. La pochette, on donne un petit peu la première impression, hein, de ce temps comme un sablier, comme ça. Toi, tu vois le temps comme un allié ou comme un ennemi, en fait?
Ben justement, c'était une tentative de sortir d'un rapport un peu conflictuel au temps, que j'ai eu beaucoup il y a quelques années. J'ai eu des périodes un peu difficiles, qu'on pourrait qualifier, les termes actuels, on pourrait dire de burn-out, de moments où le temps devient trop compressé, devient très oppressant. Et donc justement, c'est des périodes comme ça où on peut avoir tendance à concevoir le temps comme un ennemi, comme quelque chose qu'il faut combattre, avec lequel il faut se battre tout le temps. Et donc j'ai voulu essayer de changer ce truc-là. Bon, après, il y a eu le Covid qui a changé
un peu le rapport au temps. Ouais.
Qui a changé le rapport au temps de beaucoup de gens. Et qui, du coup, m'a permis une espèce de prise de recul qui m'a justement aidé à sortir de ce rapport très conflictuel au temps. Et presque pathologique, quoi, presque maladif. Et donc, dans cet album, je voulais justement essayer de trouver un autre rapport au temps, que ce soit plus une coopération, quelque chose de l'ordre de la danse avec une matière plutôt qu'une lutte. L'album, c'est un peu une tentative de regarder le temps avec d'autres yeux. Donc de se dire que, alors déjà, quand on lit un peu ce que la science a à dire du temps, on se rend compte que c'est quelque chose de beaucoup plus relatif que ce qu'on pense. Il y a même des théories qui disent que le temps n'existe pas. Et puis après, quand on le regarde sous un angle plus politique ou économique, on se rend compte que le temps, c'est un objet de bataille, de lutte politique. C'est aussi un levier d'exploitation. Donc, c'est des objets de bataille sociale qu'on peut parfois gagner. Voilà, il y a plein de manières de regarder le temps autre que juste cette horloge qui défile toute la journée et qui nous met sous pression. En fait, on peut le voir autrement et on peut aussi, parce que mine de rien, ce qui est anxiogène dans notre rapport au temps, c'est qu'on l'associe avec ce qu'il y a au bout, avec la mort, et si on voit ça comme quelque chose comme une menace, comme une ombre qui plane sur toutes nos vies. On peut aussi voir les choses autrement. On peut aussi voir les choses comme, en fait, l'éphémère, c'est ce qui donne de la valeur à ce qu'on vit. Donc, il y a aussi moyen de voir ça comme quelque chose d'assez lumineux. D'où c'est une tentative de faire de la poésie avec tout ça.
C'est réussi, c'est vrai, parce que forcément, il fuit ce temps-là. Et il y a justement, à l'intérieur du livret, quelques belles adaptations visuelles, graphiques, plastiques, de la thématique de l'album. Je pense à cette photo où tu es avec une sorte de montre qui fait comme une sorte de bandeau de pirate. Alors, est-ce que c'est toi qui viens pirater un petit peu le temps avec c'est ça l'idée que tu veux donner? Ou pirater aussi la musique?
Bah exact, c'est exactement les deux. Donc le photographe avec qui j'ai fait ces photos, Stanislas Augry, on a essayé plein de choses. On a fait une session de photos, on a essayé plein de directions différentes. Et puis vraiment, on a eu cette idée qui est arrivée, je sais plus trop comment, d'utiliser cette montre pour faire un cache-œil de pirate. Et effectivement, moi, le terme piraterie, le terme hacking aussi, c'est des termes que je trouve hyper intéressants et inspirants. Et je relis quand même souvent ma démarche dans la création sonore à des formes de hacking. Piraterie, hacking, est-ce que c'est vraiment une traduction exacte? C'est un peu plus complexe que ça, mais ça se rejoint. Et donc, effectivement, ce symbole de piraterie du cache-œil et le fait que, du coup, la montre, elle est tournée vers l'extérieur, donc je la regarde plus, en fait. Quand la montre est sur mon œil, ça me permet de plus la voir. J'aimais bien cette idée d'arrêter de regarder la montre aussi.
Cette autre belle illustration du temps qui passe et qui nous dit on va mourir, donc profitons de ce temps-là, ça va un peu plus loin que le carpe diem qu'on utilise, parce que là on a vraiment l'idée qu'on va finir vite quand même, alors qu'il faudra en profiter peut-être avant ça. Et il y a une vanité, justement, une adaptation d'une vanité dans le livret. où là il y a un peu d'humour aussi parce que le crâne il est dessiné et puis ce qui est vivant à part toi et les plantes qu'on voit, il y a une banane quand même. Ça c'est quoi, c'est pour faire référence au Velvet ou pas du tout?
Non, c'est pas une référence au Velvet. En fait, c'est ça aurait pu. On s'est vraiment inspiré de la tradition picturale de la vanité, donc il y a une très très longue tradition picturale où justement on met en scène des symboles du temps qui passe et puis de la vanité des choses auxquelles les humains ont tendance à se raccrocher. Donc de la vanité, ça peut être de la richesse, etc. De tout ce qui va pourrir. Donc effectivement, souvent dans les vanités, il y a des fruits. Et donc nous, on voulait se distancier un peu de la vanité baroque, classique, en mettant un fruit qu'ils n'auraient pas pu peindre à l'époque.
Parce qu'il n'y en avait pas en Europe.
A priori, si on prend la tradition flamande, ils n'avaient pas de bananes, normalement, à l'époque. Et donc, effectivement, ça permet peut-être déjà d'actualiser cette référence-là, datée. Et puis juste, enfin, c'est un côté débile qui nous a fait rigoler, tout simplement. Puis je trouve que cette banane, elle est très charismatique, elle a un mouchetage très beau et très pictural.
On arrête de parler d'images à la radio, on écoute un peu de musique, mais bon, ça me donnera envie de les voir, ces images-là, j'espère. En tout cas, on écoute ce titre, Le nerf de la guerre, toujours sur Tempus de Laura Perruda, et on verra qu'on peut faire sonner un instrument de musique comme si c'était un petit peu de l'eau, comme ça, étonnamment. Moi, je trouve que c'est un côté très aquatique, on en reparle juste après avec Laura Perruda.
Acheter ton temps pour vivre le mien. Le client est roi, ton temps m'appartient. Quel que soit ton âge, le jour de ta mort, ce jour-là tu seras plus jeune que moi. Car j'aurai vécu tes jours et tu seras mort des miens. J'aurai vécu tes jours et tu seras mort des miens. Le temps c'est de l'argent, l'argent c'est du temps. Au bout du compte, qui est le nerf de la guerre? Il faut du temps libre pour libérer le temps. Tu es mon prisonnier, le temps est la clé. J'aurais vécu tes jours et tu seras mort des miens. J'aurais vécu tes jours et tu seras mort des miens. J'aurais vécu tes jours et tu seras mort des miens. J'aurais vécu tes jours et tu seras mort des miens. Tu seras mort des miens.
si la harpe est un instrument à cordes pincées, on peut aussi la transformer en un instrument à cordes frappées, comme le piano peut l'être, ou comme une batterie, parce que je sais que tu aimerais être batteuse aussi, et qu'il y a ce côté-là percussif dans cet album Tempus. Laura, comment tu appréhendes un morceau une fois qu'il est écrit? Tu sais déjà si tu vas aller d'abord dans du percussif, puis après un peu plus mélodique, puis tu reviens... Comment ça naît un morceau, celui-ci en tout cas, le nerf de la guerre? Comment est-ce que tu te souviens de l'avoir vu naître sous tes doigts?
Alors oui, c'est vrai que c'est très variable les manières dont ça naît. Celui-là, je me souviens plus vraiment. Il se trouve qu'effectivement, je pratique beaucoup la percussion sous plein de formes différentes depuis toujours. Enfin, mon père est percussionniste, donc ça m'a aussi donné, je pense, plein d'habitudes de taper sur plein de trucs. Et du coup, c'est vrai que la harpe, elle se présente très facilement comme un instrument de percussion aussi, c'est-à-dire qu'elle a une caisse de résonance, donc ça donne envie de taper dessus, parce que quand on tape dessus, ça a un son intéressant, résonnant, etc. Ça met les cordes en résonance aussi, donc ça crée cette espèce de spectre, un peu de cluster d'office. Alors celui-là, comment il est né, je sais plus. Mais en tout cas, je pense que c'est un peu un mélange de plein de types de préparations que j'expérimente depuis pas mal d'années. Donc dans celui-là, par exemple, les sons qui ressemblent un peu à des grosses cloches, c'est des cordes que je joue en mettant soit des pinces à linge, soit des pinces croco dessus. Et en fait, du coup, ça vient pincer la corde à un endroit qui va créer des harmoniques très étranges. Mais c'est, là, pour le coup, c'est des cordes pincées. Et après, il y a des accords que je joue dans ce morceau qui sont... que je viens un peu... j'essaye de venir faire friser les cordes en mettant des bouts de ficelle dedans, etc. Donc, il y a plein de types de préparations différents. Et puis après, tout simplement, je frappe la caisse avec ma main droite tout en jouant les cordes préparées avec ma main gauche. Donc, ça fait ce truc un petit peu orchestral... mais qui est fait vraiment en direct à la main, il n'y a pas d'overdub. Et en fait, tout cet album-là, il a beaucoup été composé en fait, j'ai d'abord écrit des poèmes, donc je voulais parler de telle thématique, tel rapport au temps, et ensuite je les ai mis en musique. Ma manière de composer la musique, c'est que très souvent je fais des herbiers, en fait j'expérimente avec telle texture sonore, avec tel type de rythme, avec tel type de couleur harmonique, et puis quand je trouve des matières que j'aime bien, je les garde en mémoire, alors soit je les enregistre, soit voilà. Et puis après quand j'ai un texte que j'ai envie de mettre en musique, je vais aller chercher dans mon herbier des choses qui lui correspondraient bien. Et là, alors pourquoi je les ai mis ensemble, ces matières-là, je ne sais plus, mais ça s'est fait à peu près comme ça.
En tout cas, ce son aquatique, je trouve, est assez frappant, si tu me permets le jeu de mots assez foireux, mais il y a ce côté... Oui, vraiment aquatique, et c'est pas du pelle des fesses, c'est vraiment what you hear is what you get. En fait, c'est...
Oui, c'est vraiment ça. Bah, en même temps, la question est pertinente aussi, parce que... mon rapport à ces sons-là, que là, la thématique de Tempus, c'était de le faire de manière complètement acoustique, complètement artisanale, sans aucune électronique. Mais pourquoi je vais chercher ce type de couleur, c'est quand même parce que j'ai passé un peu toute ma vie à bidouiller avec des machines, avec des ordinateurs, des pédales d'effet, des machins, et que du coup, c'est ce que mon cerveau et mon oreille cherchent, c'est des matières sonores un peu différentes de la matière acoustique brute, habituelle, on va dire normale, entre guillemets. Donc là, c'est un peu une manière d'aller chercher des sons qui font écho à ce que je cherche en musique électronique, mais là, avec des outils acoustiques, c'est un peu la version low-tech de la musique électronique que je fais d'habitude. Donc ça se rejoint.
Parlons d'autres morceaux, peut-être, de ce disque-là. Moi, j'ai été un peu surpris par ce rhinocéros qui m'a fait vraiment penser à Ionesco. Alors, est-ce que c'est véritablement un emprunt?
Alors, au départ, ça n'était pas. Au départ, c'était vraiment... C'est tout simplement une chanson que j'ai écrite... pendant les confinements, donc j'étais à Paris à ce moment-là, et j'avais ma guitare qui traînait là, et c'était un moment où Paris était entièrement vide, et c'était du coup extrêmement étonnant comme atmosphère, et en plus c'était un été précoce, donc une fin de printemps où il faisait très chaud, donc ça créait quelque chose de doublement bizarre avec ce retour des animaux. Enfin, moi j'avais des canards en bas de mon immeuble alors que j'habitais à Gare de l'Est, enfin, c'était très, très, très bizarre, et donc il y avait cette espèce de... comme ça, de sensation d'être pas en France, quoi, d'être ailleurs, je sais pas où, mais un endroit où peut-être il y aurait des étrangetés dans la manière dont c'est habité par le monde animal, quoi. Et donc, je me suis un peu comme ça laissé faire un petit LSD maison où j'ai commencé à voir des rhinocéros dans la rue et à écrire là-dessus. Voilà.
D'accord, donc ça renvoie pas vraiment oui, à la pièce de Ionesco.
Bah,
mais...
Après, disons que vu l'ambiance politique actuelle, ça sonne un peu différemment,
oui,
mais
oui.
C'était pas prévu. Oui. J'aurais bien aimé qu'on n'en arrive pas là.
Oui, on pourrait dire ce rhinocéros n'est pas un rhinocéros, mais malheureusement.
Et malheureusement, il y en a un petit peu beaucoup en ce moment, des rhinocéros, et pas les bons.
L'effluve lascive d'après la pluie qui prend et grise, qui étourdit, qui vous saisit comme une lumière, comme un tournis. Bizarrerie d'été précoce, tard dans la nuit, comme un paisible rhinocéros, seul dans Paris. Persévérant au plus féroce des chasseurs d'alchimie, poursuivant le rhinocéros qui flânait dans Paris.
Laura Perrudin de cet album Tempus, et puis aussi tu l'évoquais tout à l'heure, ce workshop qui a lieu mercredi à l'île du Lab Pasteur, ça c'est dans le cadre du festival Autre Mesure, où vous pourrez échanger avec Laura qui vous présentera ce nouvel instrument. Oui, c'est un nouvel instrument. Cette harpe chromatique électrique augmentée. Est-ce qu'on appelle ça une HCEA ? Non, on ne va pas appeler ça comme ça.
On peut si on veut.
Tu lui trouveras peut-être un nom plus poétique quand ça sera autre chose qu'un prototype, parce que pour l'instant, c'en est un. Vous pourrez échanger donc avec Laura et aussi avec l'ingénieur du son Jérémy Rouault, qui est en premier lieu dans les remerciements que tu fais sur l'album. Et pour cause, forcément, parce que grâce à votre travail en commun, tu iras encore plus loin dans l'innovation, sans doute.
Alors, avec Jérémy, on travaille ensemble depuis une quinzaine d'années. C'est lui qui a mixé presque tous mes albums. C'est lui qui mixe presque tous mes concerts. Donc on se connaît très très bien sur le plan sonore et humain aussi. Et donc ça nous a amené à préciser plein de choses dans ce qu'on recherche dans le son ensemble. Et puis on a aussi conçu des dispositifs scéniques, de performance, etc. qu'on a vraiment pensé ensemble et on continue de le faire. C'est une collaboration importante. Après, du coup, sur la harpe augmentée, c'est un ingénieur de l'IRCAM qui s'appelle Emmanuel Fletti et qui d'ailleurs sera peut-être là mercredi. Il y a un petit suspense, mais peut-être il sera là.
Comment ça va se passer vraiment ? Parce que moi j'ai les précisions, échange avec l'artiste dans l'ouverture publique du workshop, c'est à 16h, puis ensuite c'est très rythmé comme ça, le temps va être compté, à 18h conférence jouée de ta part.
Alors il y a eu un petit changement de programme, vu que c'est une petite jauge et qu'on ne peut pas faire de réservation, on a décidé de faire deux conférences jouées, puis on aura une à 17h et une à 18h30. Et donc, effectivement, peu d'entrées. Donc, si ça vous dit, peut-être arriver un poil en avance.
Comment se sont faits les échanges entre le luthier, l'ingénieur de l'IRCAM et toi ? Vous n'étiez pas tout le temps au même moment, au même endroit pour les faire, ces réunions de travail. Il y a d'abord eu les préconisations que tu as pu donner à un luthier pour ensuite l'amener dans les mains de cet ingénieur du son de l'IRCAM, cet instrument ?
Alors ça a été très long, c'est-à-dire que du coup Philippe Volant, le luthier, donc là ça fait un peu plus de 10 ans qu'il a fait la version électrique, et moi j'ai commencé à réfléchir à cette version augmentée en 2019, donc ça commence à remonter un peu. J'ai commencé à en parler à Philippe qui m'a dit déjà, j'ai appris à faire des instruments électriques à ta demande. Là, clairement, les compétences en électronique, en informatique, ça me dépasse, évidemment. Enfin, c'est vraiment des technologies qu'il faut extrêmement bien connaître, ça ne s'invente pas. Et donc, on a commencé à faire des recherches. Ça a duré plusieurs années de contacter des gens, des ingénieurs, des luthiers qui avaient déjà fait des instruments augmentés, toutes sortes de profils pour essayer d'en savoir plus sur ce qu'il fallait pour faire une harpe augmentée, parce que il y a plein d'instruments augmentés qui existent, et puis tout simplement on connaît le clavier maître, clavier MIDI ou clavier OSC qui permet de piloter à peu près n'importe quoi. Quand on le fait avec un clavier, c'est des technologies qu'on connaît très bien depuis très longtemps, qui maintenant sont très connues, mais sur une harpe ça pose des problématiques techniques très très spécifiques et assez complexes. Et donc, j'ai pendant 3-4 ans, j'avais un peu essuyé des échecs de « Ah ouais, super intéressant, mais voilà, obstacle technique. » Et j'ai fini par rencontrer cet ingénieur de l'IRCAM, Emmanuel Fletti, qui lui est vraiment un spécialiste de l'augmentation des instruments, a priori pas fait pour. C'est quelqu'un qui a augmenté toutes sortes d'instruments, des flûtes, des maracas, des sculptures, structures géantes. C'est monsieur augmentation. Et donc, c'était la personne idéale pour ça. Mais j'ai mis 3-4 ans à avoir son 06, quoi. C'était long.
Quand tu parles de la possibilité de piloter grâce à la technologie MIDI, on comprend, mais il y a aussi la possibilité d'envoyer des choses visuelles, en fait. Il n'y a pas seulement la possibilité de transformer, de modifier le son.
En fait, le protocole MIDI ou OSC, donc c'est ces technologies qui permettent de piloter des dispositifs numériques, ils peuvent piloter n'importe quoi qui est pilotable numériquement. Donc en fait, comme une télécommande pourrait télécommander du son ou de l'image, un instrument MIDI peut commander du son ou de l'image. Donc moi, ce que je vais en faire, c'est que je vais l'utiliser parfois comme... comme une MPC, enfin une, voilà, une
boîte à rythme,
par exemple. Je vais pouvoir l'utiliser donc effectivement pour déclencher des samples, pour piloter des synthétiseurs, pour piloter des effets, des traitements sonores, et puis aussi piloter des projecteurs de lumière, de vidéo. Le sampling peut s'appliquer à la vidéo aussi. On peut déclencher des samples vidéo, des samples d'images. Donc ça va me permettre de piloter tout ça en même temps.
Tu deviens presque une équivalent à la harpe de ce que Jean-Michel Jarre faisait déjà avec une fausse harpe il y a bien longtemps.
Avec la harpe laser.
La harpe laser.
Qui à part visuellement est assez éloignée d'une harpe.
Oui.
Mais effectivement, alors c'est pas des technologies qui sont neuves, hein. La particularité de cet instrument, c'est de rassembler plusieurs particularités, quoi, donc d'être chromatique et électrique et augmenté. Donc ça va aussi, enfin la particularité et le défi technique, c'était de faire un instrument qui soit à la fois un instrument qui conserve son son analogique, qui peut être utilisé comme un instrument électrique normal entre guillemets, et qui peut piloter un dispositif numérique en même temps, donc de pouvoir être dans les deux mondes en même temps. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, enfin le but de tout ça, c'est comment dire, c'est un peu une marotte et une obsession que j'ai depuis longtemps, c'est comment faire de la musique électronique qui conserve les particularités du geste humain, qui conserve l'imperfection entre guillemets du geste humain, dans le sens son caractère non reproductible, le fait que un geste humain, ça a plein de nuances, d'irrégularités, c'est jamais, on peut jamais reproduire exactement le même geste, alors qu'une machine peut reproduire exactement le même geste deux fois, une infinité de fois. Et ce qui pour moi rend aujourd'hui l'usage majoritaire des technologies dans les musiques actuelles un petit peu triste parfois, c'est que en fait souvent l'ordinateur est utilisé comme un outil de calibrage, c'est-à-dire pour justement pouvoir reproduire exactement la même chose deux fois. On voit quand même beaucoup d'artistes sur scène qui arrivent avec un setup déjà complètement pré-écrit, pré-calibré, parfois pré-mixé, pré-masterisé. En fait, d'un show à l'autre, ce sera exactement la même chose. Et parce qu'il y a aussi une attente de l'industrie pour ça, pour ce caractère très très maîtrisé. Et moi, c'est plutôt l'inverse qui m'intéresse. Moi, je viens beaucoup des musiques improvisées. Je viens d'un aspect très artisanal de la musique et j'aime bien pouvoir faire des choix formels en direct, me dire aujourd'hui la forme ce sera plutôt ça, et ou aujourd'hui je vais improviser plutôt que faire ce que j'ai écrit, et puis aujourd'hui cette chanson je la chante comme ça, mais j'ai envie de respirer plus longtemps entre le couplet et le refrain, et donc je vais faire une pause plus longue, et puis aujourd'hui je vais jouer plus vite ou plus lentement, je vais changer de tempo, le groove sera un peu différent, et donc je veux que tout ça puisse être l'extension de mon corps et donc conserver aussi tout le langage rythmique, le langage musical en fait que j'ai développé sur mon instrument, qui puisse avoir son extension pour dialoguer avec la machine, mais j'ai pas envie que ce soit la machine qui m'impose chaque jour ce calibrage. Donc voilà, je voulais enlever à la musique électronique que je fabrique les rails qu'elle peut mettre parfois sous les pieds, et cet instrument va me permettre de le faire.
Quand tu proposeras ton prochain spectacle, peut-être ton prochain disque avec cette nouvelle harpe, eh bien, on passera d'un monde à l'autre, en fait, finalement, entre Tempus, là où tu as opté pour le côté vraiment analogique, avec uniquement des modifications physiques, en fait, jusqu'à ce que tu feras avec le prochain, peut-être. Est-ce qu'il y a un temps défini pour quand sortiront les premiers enregistrements avec ce nouvel instrument ?
Alors, enregistrement, je sais pas, mais il y aura des premiers lives entre la fin 26 et début 27. C'est pas encore très précis, mais dans ces eaux-là, il y aura des premiers. Et puis, en fait, tout simplement, la raison pour laquelle je fais ce workshop à autre mesure mercredi, c'est parce que c'est pour parler de ce que j'y jouerai l'année d'après. Donc, en fait, ça y jouera à autre mesure l'année prochaine. Voilà
donc il y a un calendrier comme ça. Hein. Le temps nous a accompagnés du début à la fin de la discussion avec Laura Pierudin, de toute façon. Il y a un calendrier qui est déjà en place. Vous voulez voir les premières notes, peut-être pas, mais en public, si, peut-être qu'il n'y a pas donné de notes encore de cette harpe chromatique électrique augmentée en live, ou si, un peu quand même.
Alors, je ne pense pas, je vais pas pouvoir jouer de cet instrument, parce qu'il est en cours de prototypage et qu'il n'est pas encore prêt, mais on va pouvoir montrer quand même son fonctionnement. Ce sera une démo, pas encore une création musicale, mais une démo de... ce qui est en cours, quoi.
Retrouvez les infos sur autremesure.com autour de cette exploration d'un projet artistique en cours. Voilà, c'est Kratos que ça s'appelle. Il s'appellera comme ça l'instrument ?
Non, pas mal, je pense pas.
Ça, c'est le nom du projet.
Oui, tout à fait.
Référence à
Kratos, c'est en fait, c'est la, ça veut dire pouvoir. C'est l'étymologie du terme pouvoir. Et moi, c'est une question que je me pose depuis longtemps. C'est qu'est-ce que ça veut dire ce mot ? Enfin, ça a plein de significations, ça a plein de ramifications. Et donc, voilà, j'écris sur cette question.
Eh bien, soyez des maîtres du temps, peut-être ou pas, d'ailleurs. Faites comme vous voulez. Mettez un bandeau et puis ne regardez plus votre horloge interne pendant quelques jours, je ne sais pas. En tout cas, on termine cette discussion avec Laura Pérudin. Je vous rappelle que l'album est sorti le 23 janvier. Il s'appelle Tempus. C'est vraiment un label hongrois.
Tout à fait. Sort. Oui, c'est improbable, mais oui, c'est un label de Budapest qui sort l'album.
C'est Budapest Music Center Records. On termine avec un morceau en anglais. Oui, les titres se partagent. La plupart sont quand même... non, il y a une sorte d'équivalence, en fait. Ouais, un nombre français et anglais sur l'album Tempus. Bravo. Et ce morceau, si vous le verrez en vidéo, puisqu'il a été capté à Rennes, Route de l'Orient, c'est le titre Time Thieves. Celui-ci... nous parle de qui sont les voleurs de temps, j'imagine. J'ai bien mon idée. Ils ont des grosses entreprises et font beaucoup d'argent avec, c'est ça ?
Tout à fait. Et bien, ils font commerce de notre temps d'attention.
Eh oui.
Et c'est eux. C'est un petit bisou pour eux.
Ouais. Bon. Merci Laura. Bon workshop et puis bien sûr, bonne suite à ce projet Kratos dont je suis assez impatient de voir les résultats en live. On verra ça courant l'année prochaine pendant Autre Mesure.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Is cute cats. Continuously obsolete, alienated by my desperate attempts to be present, attempts to exist, running always faster. Now if I am the fruit,
une seule et unique info-concert dans cette session du jour, un événement qui se passera ce samedi 7 février. Vous êtes invité dans un salon de musique indienne, mais au 157 rue de Verne à Rennes. Vous y retrouverez Rishabh Prasanna à la flûte. On le présente comme l'un des meilleurs flûtistes de la tradition hindoustanie de l'Inde du Nord, accompagné eh bien, d'un joueur de tabla, Tristan Auvray. Et tous les deux vous donneront rendez-vous donc pour une soirée indienne à l'atelier Prana. Je mets un lien sur la page de l'émission Le Grand Tout sur canalb.fr pour l'événement sur Hello Asso, parce que la réservation sera indispensable vu que ça se trouve peut-être dans un lieu privé. On écoute cette rencontre, un court extrait du Raga Sarasvati entre Rishabh et Tristan. C'est comme ça que se termine Le Grand Tout aujourd'hui. On se retrouve nous mardi pour parler avec Fabrice Bassemont, directeur et programmateur du Festival Travelling, et bien de l'édition 2026, ce qui nous emmènera tout droit vers Los Angeles du 10 au 17 février. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.